Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, l'antiféminisme des populistes nationalistes de Vox à Trump.
Oui, beaucoup de ismes, vous allez voir. Alors qu'en France, dimanche dernier, les têtes de liste Renaissance réclamaient dans le JDD un pacte Simone Veil à l'échelle européenne, eh bien l'Espagne, elle, vous le savez, va voir entrer dans son Parlement une des formations les plus radicalement et ouvertement antiféministes en Europe, c'est Vox, un parti nationaliste et antiféministe, et c'est lié, expliquez-vous, dans un article pour l'Iris. Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Chercheuse, bien sûr, sur les États-Unis, auteure de La Revanche de l'Homme Blanc, mais aussi directrice du nouvel observatoire genre et géopolitique de l'Iris. Alors, juste un mot sur cette tribune dans le JDD. Hein. Les acquis des droits des femmes en Europe sont menacés. C'était un des constats ou des affirmations de ces tribunes, donc signées Marlène Schiappa, Nathalie Loiseau. Elle plaide pour ce pacte Simone Veil pour harmoniser, disent-elles, les droits des femmes en Union européenne par le haut. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une sorte de clivage pro et anti-féministe, même si ça ne l'est pas encore dans cette campagne européenne?
Pour l'instant, on ne voit pas ce clivage s'exprimer de manière très, très franche. En tout cas, de manière homogène dans la campagne, dans tous les pays européens. En revanche, il y a depuis quelques mois, quelques années, des tentations très fortes d'un retour en arrière sur les droits des femmes en Pologne, en Hongrie, en Italie. Une des idées intéressantes à porter, effectivement, au niveau européen, c'est l'harmonisation d'une législation sur l'accès à l'avortement, qui pour l'instant est du ressort des différents États.
Et alors l'accès à l'avortement qui est une des cibles du parti Vox en Espagne, justement nouvellement élu, 24 députés, 10% des voix et presque 75% des électeurs qui seraient des hommes, nous disent les sondages. Il y avait une politologue espagnole, Silva Claveria, qui disait à l'AFP que c'était une contre-attaque anti-féministe en Espagne, eu égard à tout la mobilisation féministe des dernières années. Est-ce que vous seriez d'accord?
Oui, on observe dans ce pays comme dans d'autres, mais cet exemple-là est très intéressant, une espèce de volonté de retour de bâton sur les droits des femmes, mais plus globalement sur les questions d'égalité des genres, les droits des LGBTI, la peur de l'homosexualité, la haine de l'homosexualité, la peur de des transgenres également. Et ce qui est intéressant avec Vox, c'est que Vox, autour d'un discours très global sur la menace qui existerait contre l'unité nationale avec les séparatistes, par exemple, eh bien, arrive à agréger tout un tas de choses qui finalement n'ont pas grand chose en commun, mais autour de cette idée de menace de l'unité nationale et l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences domestiques, où l'Espagne a eu des lois très importantes, le mariage homosexuel il y a une quinzaine d'années, la question de l'accès à l'avortement, la menace qui existerait sur les valeurs traditionnelles, le mariage, etc. Tout ceci se retrouve dans un discours très identitaire, avec des mots très durs, hein, d'un des leaders de Vox, Francisco Serrano, qui parle de dictature des femelles. Djihadisme du genre.
Ouais, le porte-parole de Vox.
Voilà des mots qui sont très très forts et qui expriment l'idée d'être menacé par un pouvoir féministe, un pouvoir féminin, je ne sais pas, qui mettrait en péril un certain nombre de valeurs et le pouvoir masculin aussi.
Et alors, crispation, pour rester sur l'Europe, on peut même parler des autres pays, mais d'un pouvoir, disons, patriarcal qui se sentirait menacé effectivement, ou projet de restauration familiale à plus long terme. Oui. On voyait par exemple Matteo Salvini, le leader de la Ligue en Italie, aller au congrès des familles à Vérone, qui est un des gros congrès européens justement de la famille, on va dire, monoparentale, qui qualifiait l'homoparentalité de non naturelle justement, et qui avait fait annuler la mention parent 1 et parent 2 sur les cartes d'identité pour les remplacer par père-mère. Donc déjà une étape de franchie.
Oui, on retrouve dans cet exemple-là une sacralisation de la biologie, avec l'idée qu'une différence sexuelle innée conditionnerait les rôles sociaux de manière définitive, et qu'il y a d'un côté les hommes et d'un autre côté les femmes, que chacun a des rôles politiques et sociaux, etc., et que ça s'inscrit dans un ordre politique plus vaste, qu'il serait dangereux de remettre en cause, parce que c'est une société pleine de repères qui se fragiliserait. Alors vous avez effectivement d'un côté la tentation de séduire un électorat attaché aux valeurs religieuses, vous avez aussi une autre partie de la population qui n'est pas forcément la même, mais qui tient aux valeurs patriarcales, au fait que ça existe depuis longtemps, que le pouvoir est plutôt masculin, il est plutôt blanc aussi. On va retrouver cette idée de... ça va se croiser avec finalement la peur du cosmopolitisme, la peur du multiculturalisme et la crispation parfois sur l'avortement, le fait de vouloir lutter contre l'accès à l'avortement. On va retrouver une rhétorique par exemple en Pologne, mais aussi aux États-Unis ou ailleurs, disant que finalement si les femmes blanches font moins d'enfants, le risque c'est que les pays soient repeuplés ou envahis par d'autres populations qui, elles, font beaucoup d'enfants. Voilà, on est dans cette mythologie-là, et on va retrouver des choses qui se croisent autour de la menace mythifiée autour d'une identité perdue.
Alors, on va parler des États-Unis tout de suite, et juste pour conclure sur l'Europe, donc on aurait, selon vous, pour simplifier, une instrumentalisation de l'antiféminisme et des thèmes anti-LGBT par crispation nationaliste. Ce serait ça, comme en Hongrie, par exemple, où il y a eu toute une campagne pour l'exclusion, par exemple, des études de genre à l'université récemment.
Oui, au prix parfois de contorsions qui peuvent prêter à sourire, avec chez Orban, le fait qu'il critique l'influence de George Soros, qui a financé un certain nombre de départements universitaires, mais par ailleurs, il va critiquer aussi le marxisme, alors que c'est contradictoire avec la critique de Soros. Et on constate aussi au Brésil la même chose, l'annonce de la fin de financement de certains départements universitaires en sciences humaines et sociales, comme si la critique sociale, comme si l'analyse du réel, l'analyse de la complexité du réel par les sciences sociales, dont les études de genre font partie, mettait en péril un pouvoir qui ne veut pas être critiqué et qui veut rester sur des certitudes ancestrales que la recherche remettrait en question.
Bon, et vous l'avez souligné aussi, de la même manière aux États-Unis, il y a aussi une lutte, on pourrait dire, de l'administration Trump contre un certain nombre d'avancées à l'époque sur les questions de genre, la présence des LGBT remises en cause dans l'armée, une bataille administrative à venir. Mais dans cet article, vous expliquez aussi que la question a débordé sur le géopolitique, puisque ça a pesé sur une résolution à l'ONU récemment.
Oui, la pression américaine sur le fait qu'on enlève toute mention à la santé sexuelle et reproductive des femmes sur les enjeux de viol de guerre, a suscité une indignation internationale. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si les États-Unis, alors c'est les États-Unis de Trump, mais c'est toute une tradition ultra-conservatrice qui n'est pas arrivée avec Trump. C'est comme si les États-Unis voulaient imposer au reste du monde une idéologie à la fois ultra-religieuse, patriarcale, et qui témoigne aussi d'une méconnaissance assez grande de cette question sur le plan mondial, parce que les viols de guerre, c'est pas seulement le risque d'être enceinte, c'est aussi parfois des mutilations, des traumatismes physiques et psychiques pour des femmes, pour des hommes aussi d'ailleurs, parfois très jeunes, des enfants. Donc il y a une mise en péril de la vie de nombreuses personnes qui est en ligne de mire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est sous-estimé, qui est méconnu par cette administration-là. Et oui. On voit bien aussi que finalement, on est dans un refus de connaître la complexité du réel.
Oui, même si les officiels aux États-Unis, en tout cas des porte-paroles anonymes, se sont défendus de vouloir justement amoindrir les droits des LGBT. Puis dernière chose, si on retourne à l'Europe, il y a aussi une forte présence du féminisme comme thème de campagne dans certains partis qu'on pourrait dire populiste. Marine Le Pen ne s'en est pas cachée il y a 2 ans. Déjà, beaucoup de femmes qui sont à la tête de certaines formations populistes aussi, Pia Kjaersgaard au Danemark ou Siv Jensen en Norvège. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? C'est du gender washing ou alors une prise de position plus compliquée qu'on ne pense?
Il y a une part de gender washing, de mettre des femmes en première ligne pour se dédouaner de toute forme de misogynie. Et puis, certaines femmes leaders d'extrême droite, parce qu'il y en a, finalement, considèrent que le discours patriarcal soit... n'est pas si important, n'est pas si grave, que l'essentiel c'est dans la préservation de l'identité blanche, et un discours très raciste, on peut retrouver aussi des velléités homophobes, de protection d'une société fermée sur elle-même, conservatrice, et ce sont aussi parfois des femmes qui adhèrent aux valeurs conservatrices, notamment religieuses, parce que c'est leur background, elles ont été élevées comme ça, elles ont vécu comme ça, ça mettrait aussi en péril leur propre repère. Mais ce qu'on constate aussi dans les mouvements d'extrême droite ou de droite radicale ou très conservatrice, qui peuvent fustiger les droits des femmes, les droits des LGBTI, etc., c'est que ils tentent de se dédouaner de ces idéologies-là. En accusant les migrants, les musulmans, les autres, le sexisme, oui. L'homophobie, c'est pas nous, c'est les autres. Vous voyez bien que les viols collectifs, oui. Que ceci, que cela, c'est pas nous, c'est ces populations-là.
Et où le féminisme apparaît comme arme xénophobe, on va le dire.
Absolument,
comme ça.
Oui.
Eh bien écoutez, ce sera à suivre avec ce nouvel observatoire genre et géopolitique à l'IRIS qui va être inauguré bientôt. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave et bonne journée.
Merci.